la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, une émission spéciale qui est consacrée aujourd'hui aux animaux dans les livres jeunesse. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
On n'avait jamais parlé des animaux dans les livres jeunesse.
Alors on parle souvent des animaux, de la nature effectivement, mais je ne crois pas qu'on ait déjà parlé des animaux dans les livres jeunesse, à moins que ma mémoire me joue des tours.
On va demander à Valérie, salut Valérie.
Et salut, et si on en a parlé, c'est pas grave vu que c'est un super sujet.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'est bien de te voir en jouer comme ça.
Mais je suis en jouer.
De à midi et demi, là, avec ce beau soleil.
Ah, moi, les vendredis, midi et demi, c'est quelque chose qui me... Waouh.
Allez, Popo qui sait pas mentir, dit la vérité.
Salut tout le monde.
Salut Popo. Donc, on n'est pas en direct.
On n'est pas là, on n'est pas...
Il fait nuit, on n'est pas là. En ce moment même, Valérie boit des coups à Berlin.
Alors, peut-être, ou mange des bretzels, je ne sais pas encore.
On ne sait pas.
Des knödel.
Voilà. Peut-être des currywurst.
C'est ça.
Wurst.
Popo est en train de travailler, est en formation.
Tout à fait.
Et Héloïse et moi-même, on est en train de travailler aussi.
On est en train de boire des bières tous les deux.
Voilà, on est en train de boire des bières.
Sympa, ouais. Voilà. Finalement, je pars pas à Berlin.
Ouais, parce que ouais, tu peux les
boire
ici.
Parce que la bière est meilleure ici, c'est connu. Hein. Ouais.
Y a-t-il un mur à Mende ? Le mur de Mende.
Oui, on peut considérer de l'autre côté du pont Notre-Dame, le mur qui sert de fondation à la voie ferrée est un peu un mur de séparation entre le nord et le sud.
Oui, on
une
pourrait.
Une sorte de ligne Maginot qui protégeait le nord et le sud.
Je ne sais pas.
Tout ça, tu peux le couper vu qu'on n'est pas en direct.
Non, je ne vais certainement pas le couper. Je vais faire appel plutôt à un historien. Voilà, si un historien nous écoute, s'il peut répondre à cette problématique qui nous occupe en ce mercredi soir à minuit. Voilà. Alors, les animaux dans les livres jeunesse, on a plein de livres chacun. Moi, j'en ai lu 3. Valérie en a lu 3. Popo.
2.
Ah, Popo 2. Tiens.
Oui, mais il y en avait un très gros avec beaucoup de choses à lire.
Ouais. Et Louise en a
3 également.
3 également, ok.
On va travailler jusqu'à 3 heures du matin.
Ouais. Et non, on n'a qu'une heure d'émission. Hein. Valérie, tiens, c'est toi qui commences parce que je vois que tu es en train
de bavarder.
De regarder ton téléphone.
C'est faux, j'étais en train de rechercher des renseignements sur les auteurs parce que j'ai tellement aimé les livres que je me suis concentrée sur les livres et les histoires et j'ai un peu oublié de faire mes fiches sur les auteurs. Ah. Donc, je regarde Héloïse.
Ça veut dire d'habitude, tu n'aimes pas les livres.
Ça veut dire surtout que, ça veut dire que j'ai pas du tout bien travaillé, que j'ai fait ma mauvaise élève, mais une fois n'est pas coutume.
Moi aussi, j'ai pas travaillé sur les auteurs.
Mais peu importe, j'allais dire, parce que sur ce coup-là, Fleur Doger et Nathalie Chou, ça s'invente pas, qui sont, illustratrices et auteurs. Nous ont fait un super livre, un livre que tous les bavards et tous les gens qui aiment les sons et les bruits aimeront. C'est « Mais quels bavards ces animaux !» chez Actes Sud Junior. C'est un petit livre de la taille des drôles de petites bêtes qui présente en fait tous les sons, tous les bruits que font les animaux dans ce monde. On va entendre parler du bruit de la baleine, de l'orchestre des grenouilles, des sons qu'émettent les chauves-souris. Pourquoi ? Comment ? Comment en fait certains poissons communiquent entre eux grâce à leur prout, voilà. Et alors, ce que vous entendez un bruit de fond, si vous l'entendez, ce n'est pas le son de l'otarie.
Et tu le fais vachement bien, le son de l'otarie.
C'est le harangue. C'est
fait,
le harangue.
Ça ne s'entend pas quand le garage s'ouvre.
D'accord.
Voilà. Okay. Nous, on l'entend pas.
Oui, parce que vous avez un casque et pas moi. Voilà. Et donc, en fait, ce livre, à chaque page, va présenter le bruit des animaux. On va avoir les insectes qui vont faire de la musique. Donc...
Est-ce que c'est une fiction ou c'est leur vrai bruit?
Non, c'est des vrais bruits, mais c'est un livre qui est assez grand puisqu'on a une page avec un dessin. Et la page d'à côté, on va avoir des explications sur ces sons, mais c'est écrit de façon adaptée aux enfants. Mais c'est quand même assez costaud dans la définition, mais avec du vocabulaire qui va être très, très, très simple. Si on prend par exemple l'araignée, on va avoir une petite explication de ben, la toile d'araignée, c'est une guitare. Dès quelque chose gratte sur une corde, le son produit donne une information. Ding ! Une mouche vient de passer, de se faire prendre au piège. C'est l'heure de passer à table. Ring ! Un beau mal approche. Quand elle pince ses cordes de sa guitare de soie, l'araignée est aussi renseignée sur l'état de la toile. Bong ! Il est temps de réparer. Voilà. Ah, c'est, okay. C'est assez fin chaque fois.
Est-ce qu'il y a le bruit de la fourmi ?
Je crois qu'il parle de la fourmi à un moment donné. Il parle du koala. Il parle de plein de
koala
plein
qui fait du bruit.
Est-ce que tu peux nous en imiter ? Parce que j'imagine que c'est pas un livre sonore.
La grosse voix du koala.
Oui.
Il lance d'énormes grognements qui ne lui ressemblent pas. Gros. Horrible.
Excellent.
Le chevreuil aboie pour en fait imiter son prédateur et se défendre. Le poisson-chien lui-même fait le bruit du chien, comme son nom l'indique.
Non, c'est vrai.
Il y a des oiseaux qui sont imitateurs. Mais voilà, c'est plein de petites perles comme ça qu'on apprend sur les animaux. Les dessins sont tout mignons et c'est bien renseigné. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien du coup.
Ben oui, c'est bien, parce que c'est ludique et ça apprend.
Voilà. Alors après, sur le son que fait vraiment l'animal, il manquerait, j'allais dire, un peu le
petit
CD qui irait avec, mais ça permet aussi, puisque là, c'est les parents qui doivent le lire clairement ce livre, ou l'éducateur, et ça permet aussi d'inventer, de s'imaginer des choses, et c'est plutôt chouette.
Et tu penses que ça peut se lire comme une histoire le soir, un chapitre par chapitre
petite étiquette par étiquette, par thème, ou alors si tu te poses la question, tiens, au fait, quel bruit fait le cheval ? Tu peux regarder dans le livre pour savoir quel bruit fait le cheval. Donc c'est court, c'est un livre qui est assez court, il doit y avoir quoi, une cinquantaine de pages, donc une page sur deux des dessins. Et c'est plaisant, c'est tout simple, c'est un petit livre, comme je disais, c'est sur le format des drôles de petites bêtes. Ce n'est pas un gros livre magnifique comme on vous présentera peut-être un peu plus tard, l'un et l'autre. Mais c'est divertissant parce que l'écriture est simple et adaptée aux enfants. Donc quand tu le lis, c'est un peu comme si tu racontais toi-même une histoire sur les sons et sur le vocabulaire animal. Mais je pense qu'il y a derrière une vraie recherche parce qu'il y a énormément d'animaux... présenté dans ce petit livre.
Et ouais, et du coup, tu dirais à partir de quel âge ?
Je pense que dès que tu commences à imiter les bruits des animaux, tu peux montrer l'animal et lire. Après, ça peut être un peu long pour les moins de 3 ans, mais j'allais dire, dès que tu rentres à la maternelle, ça peut être intéressant. J'imagine très bien une institutrice lire à ses élèves avant le CP. Mais même après, à partir du cours préparatoire, de rentrer dans des choses un peu plus profondes, sur
le vocabulaire. Oui, il y a différents niveaux en fonction de...
Voilà. Après, c'est vraiment original, je trouve, sur les sons, il n'y en a pas... Enfin, moi, c'est le premier que je croise, effectivement.
Voilà, et c'est vrai que c'était chouette, voilà.
Que tu croises. Salut.
Les livres, c'est des rencontres, mon
c'est
bon
vrai.
Monsieur.
Qu'est-ce que c'est bon.
C'est ça, mais est-ce que vraiment sur les défenses des loups de mer, on se pose souvent la question de comment ils communiquent, quoi. Sachant que c'est super violent, le loup de mer. Là, moi, j'ai peur, depuis que j'ai lu ça, j'ai peur du loup de mer.
Mais non.
Je croise un loup de mer, je fais pas la maline. Parce que si vous saviez ce qu'il faisait à ses congénères et à ses femelles,
ouf.
Et donc, c'est chez Actes Sud, et c'est vrai qu'ils sont
très belle maison d'édition.
Super maison d'édition.
Ouais,
chez Actes Sud Junior, dans le cas présent. Mm.
Ouais. Et la fourmi croonde. Je repars sur ma blague parce que je voulais la sortir tout à l'heure, j'ai pas eu le temps.
Ah, pardon,
merci. Les dessins, tu nous dis un mot sur les dessins, c'est joli, c'est d'aquarelle,
oui, les dessins,
c'est
non,
doux, c'est quoi
Peinture. C'est pas de la peinture.
Je suis pas sûre que c'est de la peinture. On dirait un peu. Tu
Moi,
sais,
je pense
un
que c'est de la
avec
peinture.
Avec
ouais.
un joli coup de crayon sur du papier canson, un peu. Je sais pas. Il y a un peu. Il y a un peu.
C'est Nathalie Chou. C'est une grande illustratrice jeunesse. Elle illustre beaucoup de choses et c'est très mignon en fait comme style. Voilà.
Parce que
c'est
même
l'araignée.
Même l'araignée a l'air sympa. Elle a un bon capital sympathique quand tu la vois. Sa toile d'araignée est faite en forme de cœur.
Mmh. Mais elle est poilue quand même.
Ouais, elle est poilue. Elle a 4 yeux, mais elle a un petit côté sympa. Et elle explique comment en fait les prédateurs qui viennent sur sa toile, soit elle les aime. soit elle les mange. Voilà.
Tu as une très belle idée, Popo. Après, les bruits des animaux, ce sera les poils des animaux.
Et l'araignée... ça existe déjà.
Ah, ça existe déjà.
Il y a plein de livres qui peuvent être touchés comme ça, les poils d'animaux.
Ah bon. Ah oui, c'est vrai, je te dis avant, mais oui, j'en ai. J'en ai.
Mais ça marche pas quand tu te...
Non. Merci Valérie, on s'arrête là. Héloïse, qu'est-ce que tu nous présentes?
Alors, moi, je vais vous présenter un livre sur les dinosaures.
Oui, mais c'est une
triche. Ah, je ne serai pas
la seule
ce soir. C'est même pas des animaux qui existent encore.
Du caviar d'aubergine, j'aimerais bien manger.
Alors, attention, parce que du coup, c'est vrai que le livre s'appelle « Toute la vérité sur les dinosaures », c'est chez Mijad. Et donc, ça se lit comme une histoire, c'est un album, mais c'est un album documentaire. Mais vraiment pour les tout-petits. Et donc, la première page, on arrive, et donc on s'attend à un livre sur les dinosaures, et bam, on tombe sur une poule.
Incroyable.
Alors là, voilà, on lui dit, ben non, mais madame la poule, vous êtes trompée de livre, quoi. C'est pas ça, quoi. Moi, je m'attends à voir des dinosaures qui font peur, des dents, des écailles, etc. Et donc, la poule dit, non, détrompe-toi. Je viens, ma famille, je vais te présenter mon album de famille, parce que ma famille vient des dinosaures.
Du Crétacé, la crête, tout ça ?
Tout à fait.
Crétacé, la crête ?
Non, mais la poule, c'est un animal préhistorique, Valérie.
C'est ça, on vient tous de la poule.
Non, la poule, c'est un animal préhistorique.
Donc, elle va nous expliquer. En fait, elle va chez elle chercher son album photo de famille qui lui est transmis de génération en génération. Et elle va nous expliquer, en fait, d'où elle vient, quelles sont ses origines, il y a 75 millions d'années avant Jésus-Christ. Et donc, elle nous présente, par exemple, le vélociraptor dont elle tient les pattes. Le vélociraptor qui avait des plumes aussi et qui, comme elle, ne pouvait pas voler ou alors un tout petit peu au-dessus du sol, mais juste quelques mètres et pas plus. Donc, vélociraptor, iguanodon, diplodocus.
Alors, elle avait quoi du diplo?
Alors, diplodocus, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Ce que je vois autant sur le vélociraptor, je vois bien la poule qui fait du vélo, enfin les pattes, mais... Il faudra lire l'album pour avoir la réponse.
Voilà, mais je me souviens plus. Le tyrannosaure, je me souviens, c'est la stature, en fait, d'accord. Le fait de se tenir comme ça. Mais après, ouais, le diplodocus, vous le découvrirez effectivement.
En lisant l'album.
Et donc, c'est très rigolo. On pourrait croire à une histoire, sauf qu'en fait, à la fin, on nous dit que tout est vrai, en fait, dans cet album, que la poule tient plusieurs aspects de sa personne, de plusieurs dinosaures, et au niveau génétique, ça a été prouvé, au niveau scientifique, ça a été prouvé. Et c'est assez, je pense que pour un enfant, parce que moi, je le savais un peu, j'avais déjà entendu cette histoire-là de la poule, etc. Mais pour un enfant, ça peut être assez interpellant de se dire, je croise une poule tous les jours... dans mon jardin, et en fait, elle vient des dinosaures. Et je trouve ça assez chouette d'amener ça comme ça et d'amener ce sujet des dinosaures, de l'extinction aussi de masse des dinosaures et de la génétique et de l'évolution.
Tout par rapport à la poule.
Oui, c'est la poule qui nous raconte.
Excellent.
Et voilà. À travers, il y a des petites images très mignonnes, il y a des...
C'est assez rigolo comme dessin.
C'est très rigolo, voilà, là, il y a Steph, le stégosaure, qui fête son anniversaire et qui souffle ses bougies. Enfin, voilà, dans les dessins, il y a quand même quelque chose de très ludique et de très imaginatif. Mais voilà, dans le texte, tout est vrai. Voilà.
Et on l'apprend qu'à la fin.
Et on l'apprend à la fin, oui.
Sauf dans cette émission où on l'apprend au début.
Petit spoil.
Ouais, ça spoil, hein. Tu veux pas nous parler d'une série télé là que personne n'aurait vue là pour spoiler un peu ?
Je suis en train de regarder Twin Peaks, alors par contre personne ne me donne la fin.
Twin Peaks, l'ancien ?
Oui.
Mais il n'y a pas de fin à Twin Peaks.
Ah bah, on comprend rien.
Merci, tu me rassures
on
alors.
Attend, j'ai pas regardé la saison 3 en entier.
Non mais c'est les années 90.
Mais il y a une troisième saison qui est sortie.
Oui, récemment, mais je suis pas encore là.
Et c'est Lynch aussi qui est...
Oui.
Bien ça.
Donc,
la poule.
Le générique de Twin Peaks, il y a un très bel oiseau, un G. Ah. Voilà, donc
comme
ça
dans
peut
Hunger
nous ramener
Game.
À notre sujet.
Hunger Games, c'était un G moqueur.
D'accord, mais je n'ai jamais lu Hunger Games, ni vu Hunger Games.
C'est très bien
lire. Le bruit du G moqueur.
Tu vas nous le dire.
Je vais vérifier tout de suite.
Mais non, tu l'as pas.
Oh, méfie-toi. Mais alors, c'est le G, c'est pas le G qui imite les bruits de... Tous les bruits qu'il entend.
C'est pas la Ménate, non?
Elle a raison.
La Ménate dans Twin Peaks aussi.
Elle a raison, Popo. Le G imite les bruits qu'il entend.
Il posait des problèmes. J'avais entendu dans un match, je crois, dans un livre que j'ai lu pour l'émission, il imitait le sifflet de l'arbitre dans un match de football à Manchester ou je ne sais où. Ils ont été obligés d'interrompre le match. Parce que c'était un peu problématique.
J'espère qu'ils n'ont pas tué.
Alors,
le
je dis le jet, je pense que c'était un jet. Mais...
Excellent, ça.
Très rigolo comme histoire.
Tant qu'il n'imitait pas les footballeurs, putain, pas carton, putain. On ne sait pas.
Hein. Les supporters, tu veux dire.
Oui, tu sais que les footballeurs peuvent dire ça. Hein,
mais on ne les entend pas trop. Il faut savoir lire sur les lèvres. Donc, c'était toute la vérité sur les dinosaures de Guido van Genetschen. Chez Mijad.
De qui, pardon?
Guido van Genetschen.
Ok.
C'est un italo-germanique.
Alors le gémeaucœur, Valérie?
Non, j'ai pas le gémeaucœur.
Non, mais parce que pour quoi raison, il imite les bruits, donc tu ne peux pas avoir son bruit.
Eh oui. Juste la mésange qui zinzinule, et j'avais très envie de dire le mot zinzinulé.
Oui.
Voilà. Mais au Scrabble, c'est bien, non?
C'est pas mal. Mais avoir deux Z, je crois que c'est pas possible. Alors il faut une lettre blanche.
Ok, bon, mais je vais rester dans le ludique pour vous présenter mon livre, parce que c'est un livre de flap, comme on dit.
Oui.
C'est quoi, flap? Les flaps. Les flaps, c'est les petits volets qu'on peut tirer pour savoir qu'est-ce qui se cache dessous. Et c'est un livre qui s'appelle « Bien caché autour de nous ». L'auteur, c'est Elo. Alors, elle s'appelle Elo. Et c'est sur les animaux sauvages qui vivent dans les villes, pour dire voilà aux petits enfants qui habitent dans les villes que les animaux sauvages, ben ça vit pas que dans les forêts, dans la nature. Il y en a aussi bien cachés autour de nous, ou derrière les poubelles, dans les parcs, au bord des routes, sous les rames du métro, sur les toits et même dans les maisons.
Sous votre lit, regardez-les bien avant d'aller au lit, les enfants.
Non, il y a pas sous le lit dans ce livre, Valérie. Et donc c'est à l'enfant de jouer à les faire apparaître à son rythme, à sa guise. Alors il peut soulever tous les volets un à un, et attention, parce qu'il y a aussi un volet qui peut en cacher un autre, c'est-à-dire qu'il y a des volets qui cachent d'autres volets
dans les
donc
égouts,
pour
exemple.
Les enfants, moi je l'ai testé avec mes enfants, la joie de soulever ça. Oui, dans les égouts il peut y avoir des crocodiles. C'est vrai qu'on a déjà trouvé des crocodiles dans des égouts parce que des gens on avait lâché des petits crocodiles et qu'ils avaient grandi.
Il fallait soulever le volet où il y avait le serpent dans les égouts qui lui-même était caché sous les rats noirs.
C'est ça.
Et comme quoi, il faut réfléchir avant d'adopter un animal sauvage.
Ou d'aller dans les égouts.
Avant de le jeter dans les toilettes.
Non, mais c'est pas aussi négatif que ça, Valérie.
Voyons. C'est joli tout plein, je charrie.
Voilà, donc il faut juste apprendre à regarder, parfois comme dans ce livre, et à soulever pour découvrir tous ces animaux qui sont cachés partout, derrière des détritus, des camions, des... Voilà, moi je reste négatif aussi.
Des pots de fleurs.
Des pots de fleurs et
que...
autres.
C'est vraiment les grandes villes, ou alors ça peut s'appliquer ici à Mende ou dans n'importe quelle ville ou village, en fait?
Ça peut s'appliquer à Mende, mais j'imagine que c'est plus un livre qu'on pourrait offrir quand on habite dans une grande ville et qu'on veut expliquer à son enfant. La vie, elle est partout autour de nous, pas seulement en forêt, y compris là. Après, moi, je l'ai testé avec mes enfants qui ont 5 et 2 ans. Et ils voulaient juste soulever, quoi. Pour voir ce qu'il y a dessous. Alors, dès qu'ils soulevaient et que tu essayais de leur expliquer, attends, alors on va voir ce qu'il y a. Non, on veut soulever l'autre maintenant. Oui. On n'a rien à faire. Donc, c'est un peu compliqué à lire. Oui. Mais voilà, c'est très bien fait. Les dessins sont super jolis. Et apparemment, donc, c'est le deuxième. C'est chez Sarbacane.
Oui.
Je ne connais pas cette maison d'édition. C'est le deuxième livre d'Elo et c'était le même principe sur le premier, donc j'imagine qu'elle a fait le même principe. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait dans la nature, dans la savane, je ne sais pas où elle a fait.
Je ne me souviens pas. Ouais,
je ne sais pas.
Sur les quais, on trouve un héron, un ragondin, un martin pêcheur, comme Amande. C'est pas...
Mais Amande, on
soit
peut
ça trouver. Veut dire que nous sommes en ville, soit ça veut dire que ces animaux sont partout.
Oui, mais nous n'avons pas vraiment de quais, Valérie.
Bien, et le bord du Lot. Excuse-moi de les citer pour la deuxième fois en demi-heure. Mais
Oui, mais bon, si tu vois le dessin sur le quai, il y a quand même un gros bateau.
Le gros cargo d'essence garé.
Non, il n'y a pas.
Mais il y a un vrai message, on va dire, écologique derrière, j'imagine.
Oui, oui.
Ou c'est pas à charge des hommes, c'est neutre, ouais.
Voilà, c'est juste pour dire que voilà, il y a de la vie animale aussi. On nous explique pas qu'il faut laisser cette ces animaux en paix, on nous explique rien, c'est juste pour dire. Mais bon, d'un côté, c'est aussi, c'est aussi un message écologique de dire, les animaux sont partout, à toi de les découvrir.
Et d'observer un peu plus dans ta vie quotidienne aussi, peut-être.
Exactement.
Et puis de pas avoir peur peut-être, parce que les animaux en ville, je trouve, font plus peur que les animaux dans dans la forêt. En tout cas, on est moins à l'aise avec un rat qu'avec.
C'est vrai, alors que les rats sont pas des animaux méchants. Et non, ou finalement.
Pas par nature, en tout cas.
Le rat est l'animal le plus propre.
Il transmet la rage.
Ah, mais après, ça, c'est.
Et la peste.
Ah, ça va, un petit choléra une fois par an, ça peut pas te tuer.
Quoi qu'il y a un touriste qui s'est fait mordre par un chat au Maroc et qui est mort de la rage. Un touriste britannique.
Oui, mais après, la rage,
cette semaine.
Ouais, mais les chats.
Et puis la rage, surtout.
Oui, et surtout. Merci, Popo. En parlant d'observation, Popo.
De rage.
Je ne sais pas pourquoi je fais cette transition, mais bon, il faut bien trouver une transition.
Je
ne
vais pas pouvoir la récupérer.
Mais... Non, tu ne la récupères pas.
Je vais faire avec.
Dis-nous, alors.
Alors, moi, je vais commencer par un petit bouquin qui était génial, chez Rue du Monde, et c'est la petite encyclopédie illustrée des animaux qui vivaient autrefois sur la Terre.
Oh, triste.
Et il y a un beau mammouth en couverture.
Il y a un chouette mammouth et une espèce de monstre du Loch Ness.
Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais.
Il va falloir que je retrouve alors parmi les 112 pages que fait ce livre.
Ça veut dire qu'il y a 112 animaux qui se sont éteints
Alors, ils ne se sont pas éteints. Alors, toi, tu vois le côté très triste de ce bouquin direct.
Mais parce que je vois qu'ils vivaient.
Valérie est un peu chafouée, non?
Non, oui. Je ne suis pas chafouée, mais qui vivait, c'est de l'imparfait.
Oui, eh ben oui. Mais alors en fait, la démarche est beaucoup plus sympathique, c'est que on parle toujours des dinosaures. Quand on parle des animaux du passé, d'ailleurs, Héloïse a un bouquin sur les dinosaures, j'ai un bouquin sur les dinosaures, on adore. Tous les gamins aiment les dinosaures, connaissent les dinosaures, mais est-ce que vous connaissez par exemple le gérothorax? Parce que le gérothorax, il est super drôle quand même. C'était un animal tout plat. Totalement plat. Il était tellement plat que pour ouvrir la bouche, il était obligé de lever la tête et pas de...
Excellent, ça.
Voilà, donc il y avait plein d'animaux super étonnants, autres que les dinosaures. Il y avait le paresseux terrestre. Alors bon, vous auriez aimé le rencontrer, vous croyez? Ben non, il faisait 7 mètres de haut.
Et c'est comme un paresseux maintenant.
Oui, en tout cas, le dessin qu'elle en fait.
Sauf que trop lourd, il montait
pas. C'est vraiment le paresseux actuel, voilà, mais gigantesque. Donc un truc absolument incroyable.
Mais quelle période, Popo?
Alors, le paresseux terrestre, entre il y a 46 millions d'années et jusqu'à il y a 11 000 ans.
Ah, 11 000 ans, c'est pas.
C'est presque contemporain, quoi.
Alors, il y en a des. Plus proche, mais très peu. Je pense qu'elle n'avait pas voulu aller dans le larmoyant. Elle a évidemment parlé du dodo. Je pense qu'on connaît. Voilà. C'est, je crois, celui qui s'est éteint le plus récemment.
Ça n'a pas disparu, les dodos.
C'est un symbole.
Ah, si, ça a disparu. Il faut que tu ailles à Mayotte et vite, toi.
Comment ça?
Oh, ben, la triste nouvelle. Il n'y a plus de dodo depuis 1662.
En fait, j'ai loupé l'épisode.
À cause de nous. Hein.
Ah, ben, de toute façon. Hein.
Oui, on serait un peu responsable. Bon, alors, a priori, ce qui est très rigolo dans ce livre, c'est qu'elle nous explique aussi que les dodos n'étaient pas forcément... Alors, ils n'étaient pas très, très futés. Hein.
On va dire qu'ils l'ont cherché.
Parce qu'en fait, effectivement, ils étaient tranquilles sur leur île pendant des années. Ils n'ont pas eu besoin de développer des capacités de défense ou
s'est pas volé,
de s'enfuir. Ils étaient tranquilles. Et quand on est arrivé, même... Enfin, je fais une petite aparté, pardon.
Vas-y.
Mais en fait, les humains se sont rendus compte qu'il était là. Ils ont commencé à le tuer, mais ils se sont rendus compte que la chair était vraiment pas bonne. Et du coup, ils l'ont tué, mais juste pour le plaisir, en fait. Et voilà, c'est un animal qui s'est éteint pour notre bon plaisir de chasse et de se moquer de lui. Et de... Enfin, voilà, c'est même pas pour la chair, même pas pour les plumes, c'est quelque chose d'assez horrible comme extinction.
Et puis aussi, ils ont, moi, dans un des bouquins que j'ai, ils disent qu'ils ont rasé beaucoup de forêts dans lesquelles ils vivaient.
Ouais.
Et l'humain a introduit des prédateurs sur l'île de Mayotte, en fait, et qui a fait que les dodos, qui étaient quand même un peu comme, je ne sais plus quel animal dont tu parlais, comme la poule, qui ne pouvaient pas voler de par leurs gros popotins et leurs petites plumes, n'ont pas pu se protéger de ces prédateurs.
Et
plus d'arbres pour
aller ailleurs. Ils n'ont pas pu aller ailleurs.
Voilà.
Ils ont pas...
voilà.
Donc,
mais ton livre est rigolo.
Ouais, il est très très rigolo. En plus, il est très chouette.
J'ai envie de pleurer, moi.
Il est illustré par une Suédoise qui a fait un autre livre dans cette collection qui parle des animaux un peu curieux. Il me semble que c'est ça.
Des animaux étonnants, ouais,
voilà.
Un peu originaux.
Et donc, c'est des dessins en noir et blanc qui sont assez sympa, je sais pas trop comment les décrire, assez fidèle au modèle original, je suppose. Alors après, qu'ils essayent pas non plus de reproduire dans les détails, mais
mais assez simple effectivement dans les traits. Ouais.
Et avec des petites infos à chaque fois sur l'animal en question, un peu étonnante, un peu incroyable, un peu. C'est un super bouquin et en plus, je pense que ça va des tout petits. Vraiment, on peut voilà comme toi tout à l'heure. À 2 ans, je pense que tu peux y aller. Au plus grand, puisque finalement, il y a à lire, il y a, y a des choses à apprendre, jusqu'en CE2, CM1, je pense que on peut y aller.
Alors, c'est du dessin noir et blanc, hein. C'est presque c'est en creux de Chine.
Et c'est vraiment une petite encyclopédie des animaux disparus.
Et t'as appris des choses toi-même.
Ah ouais, j'ai appris plein de choses, c'était super rigolo. Ouais, par exemple, à un moment, elle parle de l'ours des cavernes et elle parle d'une grotte en Autriche. C'est donc l'auteur, elle s'appelle Maga Safström. Désolée pour la prononciation, c'est pas ça, mais
c'est quoi,
c'est une Suédoise.
Suédoise. Hein.
Ouais. Et
elle
parle
donc
de.
Nico. Allez.
On a une drôle d'espèce animale qui arrive dans le studio.
Ouais, il n'a pas disparu.
Nico, tu parlais justement des ours des cavernes.
Non, il n'a pas disparu.
J'aurais plus sur le tigre à dents de sabre, mais
elle parle du tigre à dents de sabre. Il est bien là.
Et donc
cette grotte, une grotte d'Autriche où ils ont trouvé les squelettes de 30 000 ours des cavernes.
Oh.
Incroyable.
Qui avaient été chassés ou qui sont morts là parce qu'ils ne trouvaient pas la sortie.
Ça, ne l'explique pas. A priori, alors moi, pour avoir visité une grotte récemment, l'homme préhistorique ne chassait pas vraiment l'ours des cavernes parce que c'était un sacré monstre quand même. Et c'était un animal un peu incroyable. Mais voilà, donc elle donne plein de petits faits étonnants. C'est vraiment chouette, un chouette livre.
Ça permet de creuser aussi après des histoires qui interpellent, de chercher.
Et puis ça va assez vite pour pour un enfant. Il se lasse pas, il apprend des petites choses dont il va se rappeler parce que c'est des petites choses étonnantes à chaque fois. Moi, le paresseux de 7 mètres, je m'en rappellerai, je pense, pendant longtemps.
Alors, quand ils vont sortir le livre des animaux disparus en 2018, on rira moins aussi. Parce que.
Ensuite, triste.
Eh ben oui, non, mais
il
voilà,
va
il faut
rajouter dire ce le rhinocéros.
Ouais, je pense qu'elle elle veut vraiment sensibiliser aussi.
Oui,
hein,
mais
là,
ça y contribue comme, effectivement d'apprendre plus sur les animaux.
D'ailleurs, il y a un petit message au début où elle doit dire un mot, je pense, à ce propos.
C'est combien d'oiseaux qui ont disparu là dernièrement? 60% des oiseaux sur Terre,
des
jardins,
des espèces, enfin tout confondu, oiseaux, mammifères, poissons. En ce moment, là, c'est grande extinction de masse. Ouais. La dernière, c'était les dinosaures à cause d'une comète. Et cette fois, c'est à cause de nous, clairement.
Alors, c'est pas à cause d'une comète, parce que sinon, si ma fille écoute, elle va te recadrer direct. Elle va t'expliquer qu'en fait, cet astéroïde a provoqué un gros nuage de fumée. Et en fait, comment elle m'a expliqué ça? Que les animaux qui étaient végétariens, forcément, la photosynthèse se faisait plus, ne pouvaient plus manger. Et donc sont morts et les animaux carnivores n'ont plus d'animaux végétariens à manger.
Oui, enfin, à la base, c'est quand même une comète.
Imagine directement
Nico,
l'explosion.
C'est pas une comète, c'est un astéroïde.
Un astéroïde.
Ah, je suis désolée.
Oui, mais c'est parce que
alors, tu arrives pour recadrer tout le monde.
Non, demandez mon avis, je vous dis.
C'est pas là, parce qu'on imagine de suite cet astéroïde tombe et ça fait une explosion d'enfer. Non, c'est pas vraiment ça, quoi.
Mais là, dans mon livre, une astéroïde, un choc d'une violence terrible, des éruptions volcaniques, la Terre plongée dans une interminable nuit.
Et cette nuit empêche la photosynthèse et donc de nourrir les végétariens.
C'est un peu dur pour les 3-4 ans, quoi, la photosynthèse.
Soyons carnivores, omnivores, pardon.
Pauvre enfant.
Super ce livre, vraiment. Ouais. Super maison d'édition.
Aussi. Très, très chouette.
J'aime bien le mauve de la couverture.
Oui.
Très belle couleur.
J'ai très envie de voir l'autre.
Rue du Monde. Si tu veux,
c'est très tendance.
C'est très tendance.
Il y a le mauve, c'est très tendance.
Ouais, c'est ça.
C'est dans le mauve.
Merci Popo.
C'est dans le mauve.
Super. 28 minutes, on peut faire une pause musicale ou on peut continuer. Allez. Comme bon vous semble.
Donc est-ce que tu nous mets Ludwig von 88 à 30 millions d'amis ou pas?
Je ne mets pas Ludwig von 88 à 30 millions d'amis. Je vous laisse la surprise et on en parlera après la chanson.
Ça marche.
Allez, à tout de suite.
Thank you. de souvenirs, des soirs au clair de lune, des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir, retrouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir.
S'il y a du gris dans tes nuits ou des larmes dans ton cœur,
la musique est là pour ça.
Il y a toujours une merveille pour les jours meilleurs.
Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, oh oh oh, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire.
Ah, ça fait rire les oiseaux, quelle bonne chanson.
Non.
Comment ça, non?
C'est fini, je resterai vivre à Berlin.
Non, 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 on verra.
Bridage.
Ce sera une surprise.
Alors, okay. Tu achètes un grand appartement, tu vois, pour qu'on puisse venir te voir souvent.
Sur, l'adresse, ce sera alexanderplatz.
.com.
Et observer les oiseaux dans la ville de Berlin et les animaux sauvages.
Il y a des drôles d'oiseaux dans la ville de Berlin.
Tu es déjà allé à Berlin, Nico?
Non.
Moi non plus.
Mais c'est une ville qui bien, me tente. Du coup, tous les deux.
Ben ouais, carrément. Ouais.
Ça voilà. Va, organisez-vous des trucs entre vous.
Sympa, ouais, les gars. Ça.
J'irai au Bergheim.
Mais je t'accompagne ou c'est toi qui m'accompagne?
Qui garde les enfants, son Ivan, Nico? Eh ouais.
Eh ben Audrey.
Audrey. Ah, mais c'est vrai. Les femmes peuvent garder
les enfants.
Moi,
je sais pas, la dernière fois où j'y étais, il y avait un mur, donc je vais voir.
Ouais, peut-être qu'il y sera plus. Ça sera la surprise.
Entre nous.
Ouais. Poursuivons cette émission, s'il vous plaît. On se reconcentre. On va parler. Tiens, c'est moi qui vais présenter mon livre. Commence à travailler le tien, Nico.
Vu que,
paraît-il, tu ne l'as pas trop travaillé. Tiens, je vais vous parler des milieux naturels se rebellent. Livre que j'ai un peu lu, mais sans trop le lire. Donc, je préfère annoncer la
Pourquoi
couleur. Mais parce que j'ai eu beaucoup de travail.
Trop d'émotions, trop de lecture.
Trop d'émotions. C'est un livre très intéressant car c'est un livre qui est un peu engagé, qui nous explique que l'homme façonne le monde, ça on le sait, selon ses besoins. Mais du coup, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne des rivières, il assèche des marais, il bétonne des côtes, il détruit des forêts, il modifie l'habitat naturel de la plupart des êtres vivants pour construire ses maisons ou des barrages, il cultive des champs, il se prélasse sur une plage. Et tout cela perturbe, on le sait, le fragile équilibre qui règne dans la nature. Donc, différents milieux naturels, alors ça soit la plage, on parle de dunes, bien sûr, on parle de marais, on parle d'estuaires. Après, on passe aux forêts et autres qui subissent des dommages. Donc, ça nous explique un peu l'incidence de l'homme sur ces milieux naturels et donc également sur la faune qui vit. Et pour au final nous expliquer qu'il est urgent qu'on prenne soin de ces lieux qui sont malmenés. Donc, c'est un livre qui est résolument écologique, qui nous met face à nos contradictions et qui porte à la réflexion, et ce qui est intéressant pour lire avec des enfants.
Il a l'air quand même assez costaud en termes d'écriture, non ?
Oui, voilà, c'est une page dessinée, une page d'écriture. Ouais. C'est des livres à lire avec des enfants.
Une grande page quand même, hein. C'est pas de la pageounette pour bébé.
Oh, non, c'est, là on part sur les 7-8 ans minimum, hein, minimum. Et il faut y aller doucement, vraiment expliquer ce qui se passe. Après, moi je me suis dit, quand j'ai lu le titre, Les milieux naturels se rebellent, je pensais que ça irait un peu plus loin dans
la rébellion.
Bon, on nous explique que on peut créer des plages, quoi qu'il en soit, l'eau continue d'avancer, l'érosion se fait. Donc oui, je pensais que ça irait quand même plus loin. Mais c'est vraiment intéressant, ça porte à la réflexion. Et avec des enfants, c'est important de lire ces livres quand ils sont un peu grands pour leur expliquer, voilà les méfaits que font les hommes. Et il y a des animaux qui disparaissent, on en a parlé avec Popo. Il y a des habitats naturels, etc. C'est chez Oh, Actes Sud Junior.
Incroyable. Incroyable. Deux fois déjà ce soir.
Deux fois. Quelle belle maison d'édition.
Et c'est qu'en France, du coup, ou c'est dans le monde entier, ça peut s'appliquer
Non, non, ça peut s'appliquer partout. On ne donne pas d'exemple précis de ville, mais ça s'applique partout. De toute façon, les plages, ça reste les plages. Hein.
Ça, c'est la côte bretonne sur la couverture, par contre.
Comment s'appelle cette petite plante magnifique qu'on trouve qu'en Bretagne? Là, celle-ci, là.
Ah ben, je crois que ça, c'est pas vraiment magnifique, ce truc à poil, là.
Oui,
je crois
c'est envahissant.
Ouais, ça envahit tout.
Demande à Nico, il est breton.
Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Si t'as un ami qui est asthmatique et dont tu veux te débarrasser, tu l'amènes là.
Voilà,
je pense. Oui, c'est beau.
Il va éternuer. Il va mourir. C'est joli, mais en plus, il va y en avoir bientôt absolument partout et ça remplace tout. C'est un peu une saleté, en fait, je crois.
C'est un peu comme les arbres à papillons, ici, quoi.
Il est temps que les milieux naturels se rebellent, je dirais.
Oui.
Que les plantes endémiques reprennent le pouvoir.
Spécifiquement, du coup, ça parle effectivement des milieux naturels, des minéraux, de la roche, des plantes, mais les animaux, on en parle un peu ?
Attends, je vais le lire. Non, je déconne. Oui, on en parle un peu. Ben oui, évidemment, il nous explique quels sont les animaux qui vivent dans ces milieux naturels.
Oui, mais j'ai vu parler du jet. C'est l'exode des animaux dans leur milieu naturel parce que l'homme a façonné ce milieu naturel.
Regarde. Voilà, dans les marais, on va parler de la musaraigne, de la vipère pléiade.
Qui lit des livres de la pléiade.
Voilà, et pour répondre à votre question, voilà, aux Pays-Bas, des archéologues ont pu également trouver des restes humains, des objets qui leur appartenaient sur ces lieux-là. Donc, ça prouvait qu'on y vivait et que la nature a repris ses droits au fur et à mesure, à récupérer un peu cet habitat.
Donc, tout n'est pas perdu pour la nature.
Non, tout n'est pas perdu pour la nature. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je parlais avec... Jackie qui fait des émissions chez nous, le vendredi d'ailleurs, l'émission vient de passer ce matin, à 11h, rediffusée l'après-midi, et qui a expliqué qu'on a découvert que les marées noires dans les océans, il y avait des marées noires qui tombaient au fond de l'océan. Et on vient de découvrir dernièrement, ce mois qui vient d'arriver, que grâce à ces marées noires, il y avait des nouveaux poissons, des bactéries, des algues qui arrivaient à se recréer.
Et après, la nature s'adapte, c'est sûr.
La nature s'adaptait, s'est servi de ces marées noires, de ce qu'il y avait dedans, pour recréer toute une faune et une flore.
On va continuer à faire couler des bateaux pétroliers, nickel.
Exactement, faites des croisières.
Non, mais comme quoi la nature est tellement créative et s'adapte aussi, effectivement, à tout un tas de problèmes.
La nature se rebelle, Valérie.
Elle se rebelle, oui.
Mais ça va trop vite et tout le monde n'aura pas le temps de s'adapter dans les océans.
Poissons rectangulaires.
Oui, les poissons sont un peu chelous. Des nouveaux poissons, ils sont un peu chelous.
Non, parce qu'ils ont 8 yeux et des bras.
Oui, c'est ça.
Non, voilà. C'est comme les ouragans qui refroidissent les océans et finalement permettent de stopper le réchauffement climatique à cause de nous. Donc on est triste quand il y a des ouragans parce que ça détruit tout. Mais d'un autre côté, grâce à un bon ouragan, la mer est déchaînée, elle détruit peut-être les coraux, tout ça en faisant ouragan. Mais le froid qui est en bas de l'océan va remonter et faire réduire la température. Que nous avons fait monter par notre faute.
Oui, c'est un peu comme une bonne guerre, quoi.
C'est ça.
On peut se rassurer comme on veut.
Non, mais voilà. Oui, mais c'est à notre faute.
Oui, on peut se rassurer, mais c'est pas l'idéal.
C'est ça. T'as 100 000 personnes qui meurent.
Ouais, mais non, mais là, c'est ça.
Et vivement le prochain astéroïde. Ça va être trop cool.
M'en fous, je suis omnivore.
Je suis pas sûre qu'on fasse partie des espèces qui survivent à des choses comme ça.
On se fera bouffer par le mammouth à poils laineux, c'est évident.
Et le gros paresseux qui reviendra.
De 7 mètres. Il commencera par manger Popo.
Mais pourquoi
je n'en voudrais pas.
Et pourquoi Popo d'abord ?
Il a l'air très sympa.
Disons. Nico, tu as un livre à nous présenter.
Oui, je m'incruste, mais j'avais envie de vous parler d'un livre sur... Nico. Ça fait longtemps, ça fait super plaisir de
C'est vrai, c'est un peu ton retour là.
Ouais, cool.
T'as pas reçu ta lettre de licenciement pourtant ?
Non, pas encore.
Non, mais alors vas-y, parle, tu as la parole.
Alors moi, je voulais vous parler d'un auteur qui s'appelle Jean Grounas, qui a écrit pas mal de livres. Et récemment, j'ai lu un truc qui m'a fait mourir de rire, que j'ai trouvé très très bien. Jean Grounas, c'est un auteur de littérature jeunesse, qui est un graphiste, mais un bricoleur aussi de talent, et qui, par exemple, travaille actuellement sur la machine à voyager dans le temps, ou la machine au mouvement perpétuel, enfin des trucs impossibles, bien sûr. Mais pour vous dire dans quel état d'esprit il est, et il écrit pour les tout-petits et pour les plus grands, et à chaque fois, il y a deux lectures. Il y a vraiment une lecture pour les enfants, et une deuxième lecture pour les adultes. Et le livre dont je voulais vous parler, ça s'appelle « Alors, sa mort ». Et en fait, c'est sur la redondance du « Alors, sa mort ». Vous savez, quand on est en train de pêcher, tranquille, au bord de l'eau.
Alors, sa mort ?
Il y a toujours quelqu'un qui vient te voir et qui fait « Alors, sa mort ?» Et t'es là, tu te dis « Mais casse-toi.
Bah, tu le mords.
La paix, quoi.
Tu le mords.
Ouais. Ah, tu le mords. Alors là, en fait, c'est un pingouin qui est seul sur la banquise, qui est là en train de pêcher, qui a fait son trou, en train de pêcher. Et puis, il y a à côté donc un phoque qui arrive, qui fait bon, alors, ça mord. Et puis après, bah, non, ça mord pas. Ah bon, et pourquoi ça mord pas?
Et oui, pourquoi?
Bah oui, alors, Nico.
On sait pas. La page d'après, c'est un nouvel animal qui arrive, donc c'est le buffle. C'est... Enfin, donc, il y a toute une tripotée d'animaux qui viennent. Donc, vraiment, on a le morse, le buffle. Non, mais il y a même un buffle. Enfin, on ne sait pas d'où il sort sur la banquise, mais bon. Ouais.
Je pense que c'est Nico qui l'a dessiné.
Il y a un ours polaire, et à la fin, il y a un homme, bien sûr. Alors, ça mord? Voilà. Et ça, ça veut dire quand même, bon. Et à chaque fois, non, ça mord pas. Et pourquoi ça mord pas? Mais pourquoi? Et à la fin, c'est...
Raconte pas la fin.
Mais non, qu'est-ce
que Louise a déjà spoilé voilà. une fois.
Et ouais. du coup, c'est génial parce qu'on s'attend pas du tout à cette fin. Et
alors
fin,
ne le dis pas.
Plus pour les adultes que pour les enfants, mais les enfants, ça les fait beaucoup rire.
Ça les fait rire quand même.
Voilà. Mais derrière, il y a quand même toute cette répétition, la situation et les personnages. Bon, graphiquement, c'est très très beau. Voilà, c'est très beau, très simple. C'est un bel univers. Et il a fait pas mal de bouquins autour de ça.
Donc ça se lit très vite.
Oui, c'est un petit ouais, album, c'est en un fait, petit pour album. Les tout petits, à l'atelier ouais. du Poisson Soluble, qui est une super voilà. maison d'édition Dupuis. Et,
Dupuis.
Et c'est vrai que ça joue sur le Puits Envolé.
Dupuis Envolé, d'accord.
Super. Chez notre ami Laurent.
Il en a fait une autre qui s'appelle, la suite qui s'appelle Elle est bonne. Alors, elle est bonne.
C'est quelqu'un qui nage, c'est ça?
C'est ça qu'ils ont dit. Elle est bonne.
Hors antenne, tu nous diras, et la chuite de Alors ça marche.
Ah oui, oui.
Et aussi, ça marche? Ça marche pas. Ah. Il est beaucoup là-dessus. Bon, ses albums sont vraiment à mourir de rire, quoi. Voilà, il en a fait comme ça pas mal et je trouve que voilà, Jean Gourouna, c'est vraiment un auteur.
Jean Bougna. Michel Bougna.
Il est d'où alors ce Jean Gourouna pour être publié par une édition Dupuis? Il est contemporain, il est local ou
Alors je sais pas d'où il vient ce monsieur. Non, j'en sais rien du tout.
Allez, Valérie a travaillé sur les auteurs, donc du coup elle veut tout
Jean
savoir
Gourouna,
sur les auteurs.
Des il est en fait de Saint-Étienne à la base. Ouais, à Saint-Étienne.
Et il est dit au cuit. T'es marrante toi.
Non mais le gars chez Vinoux, elle publie pas que des gens qui sont de Lozère, tu vois. Donc,
non, des fois d'Aveyron, ouais.
Voilà.
Non mais il y a pas de d'auteurs en Lozère. On n'est pas assez nombreux.
Que tu sais pas.
Non, c'est pas vrai.
Marie, peut-être alors, Marie
il y a énorme. Non, mais littérature jeunesse. Non, mais il y a beaucoup de gens en fait qui écrivent, hein, qui font de la littérature jeunesse, qui font des petits albums pour eux ou pour leurs enfants, mais c'est jamais publié. Mais je suis sûr qu'il y en a en Lozère et qu'on devrait les rencontrer.
Mmh. Venez déposer vos épreuves,
vos candidatures.
Ouais. Ouais.
Et Louise, ouais, tu les as lus cette série de.
Oui, je les ai lus. Je les avais à la librairie. Ils sont très rigolos. Oui, ils sont très sympas. Ça permet aussi de découvrir le milieu de la banquise.
Très sympa, ouais. Ludo, les de donner animaux. La parole à Héloïse quand elle a la bouche.
Aval et Héloïse.
Voilà, non, mais c'est vraiment sympa pour ouais, les tout-petits.
Bon. Oh, je questionne qui j'ai envie de questionner dans cette émission. Voilà.
Le maître du jeu, Ludo.
Ouais. Très bien. Mais écoute, merci Nico.
Ouais, c'était juste comme ça en passant.
Allez, ciao.
C'est gentil d'être passé.
Allez, bonsoir, bonne soirée.
Non, c'est avec plaisir.
C'est bonjour, on est midi et demi en fait.
Ouais, c'est midi et demi. Ouais.
Bonne journée.
Non, mais reste avec nous, parce qu'on a encore plein de livres à présenter. On aimerait t'entendre dessus avec Popo qui a un gros livre. On parlait de dinosaures tout à l'heure. Ouais. On parlait de poules. Est-ce qu'il y a des poules dans ce livre?
Eh ben oui, il y a des poules dans ce livre. Moi aussi, j'ai appris que le dinosaure venait de la poule. Ouais.
Ou que la poule venait du dinosaure.
Que la poule venait du dinosaure.
La poule.
C'est la poule ou le dinosaure?
Oui. D'ailleurs, on voit de quelle partie en fait poules sur la couverture. Hein, des espèces de dinosaures à poils et à pattes de poulet. On voit bien la ressemblance. On ne doute pas que c'est un dinosaure, mais on voit quand même une poule. Hein.
Ouais. Non,
mais
ça fait plus peur.
C'est vraiment une grosse poule. Hein.
C'est pas un dinosaure poule. Qui vient de l'Utah, ça
Peut-être bien.
Non, mais c'est vrai.
T'as une connaissance du dinosaure à propos?
Non, mais j'ai des enfants, hélas, qui...
Ah bah alors, achète-leur ce livre.
Non, c'est l'as, pas hélas.
C'est l'as aussi, ouais.
Alors ouais. Non, alors là, il faut y aller. Tu peux... Lance-toi sur le...
Bon, eh bien, tu me les mets de côté.
De Chris Wormel et Lily Murray. Donc, c'est déjà un superbe livre.
C'est très, très, très beau.
Ça a un petit côté... cahier de les herbiers, là.
D'accord. Mais ça fait un peu vintage aussi, je trouve.
Ouais, voilà. Cabinet de curiosité. Oui, je ne sais pas trop comment vous définir
c'est
le style.
Ça.
Du bonnet, donc comment il s'appelle pas du bonnet.
Dérolle. Oui. Cabinet Dérolle.
Ça, c'est autre chose. C'est du bonnet, c'est une boisson.
Non, mais c'est con. Tu parles, Nico.
Allez, Valérie, sois sérieuse. Non, Nico a raison. Valérie, sois sérieuse.
Oui, mais personne n'avait relevé. Il revient. Zut.
Allez, Popo.
Donc, déjà, un super beau livre.
C'est vrai.
un grand livre, hein, c'est un méga format.
On dirait un dictionnaire. À 3.
Ça fait encyclopédique.
Ouais, bah voilà, c'est ouais, assez encyclopédique. En fait, c'est. On part donc de la naissance des dinosaures. Alors, on est à la formation de la Pangée, le continent unique. Et puis, on suit les dinosaures pendant quand même, enfin, moi, je ne me rendais pas compte, 175 millions d'années.
Tu es en train d'insinuer qu'on a tous vécu à un moment donné sur le même lopin de terre ?
Oui. Enfin, je ne sais pas, mais
depuis
eux, oui.
Francis Cabrel, personne n'a utilisé l'expression lopin de terre. Vas-y, continue.
Je connais un communiste un jour. Ah.
Mais... Non.
Si, si.
Ah là, tu me défends. Donc, les dinosaures, c'est quand même c'est pas rien. Ça vaut bien d'y consacrer un très gros livre. Même si je disais tout à l'heure, c'est triste, on parle que des dinosaures dans Les animaux disparus. Ça vaut quand même le coup parce que c'est une sacrée histoire. Ils évoluent, il y a des espèces, des tas d'espèces. Ils ont vécu dans des milieux hyper variés et tout est là-dedans. Mais quand je dis tout, c'est-à-dire que c'est the bouquin sur les dinosaures. Alors, pour les enfants, c'est là que je mets un bémol. C'est pas pour tous les enfants.
C'est à partir de quel âge ?
On peut pas lire à un petit.
Oui, c'est les CP, quoi.
Ouais, voilà.
Il va
regarder les images. Après, je sais pas. Bon, alors, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un doute sur le fait que si un petit qui aime les dinosaures va regarder peut-être ces illustrations. Mais il faut, je pense, c'est un livre qui s'adresse aux passionnés. Vraiment aux passionnés, parce que... Et finalement, un peu aux adultes, pour moi aussi, parce que pour la beauté de l'objet, ça peut être pas mal. Donc, ça nous dit tout sur les dinosaures et pendant toute leur histoire. C'est un magnifique livre chez Casterman.
Les auteurs, c'est d'Angleterre, non ?
Il me semble américain, parce qu'il y a...
Il y a
une note d'un professeur de Chicago au début du bouquin, donc j'ai supposé américain, mais j'avoue que je n'ai pas fait la recherche.
J'imagine que les encyclopédies sur les dinosaures, ça doit déjà exister.
Il y en a plein, Héloïse. C'est vrai il y a plein d'ouvrages sur les dinosaures.
Tu l'as regardé celui-là ou pas,
oui,
Héloïse ?
Oui, après,
qu'est-ce qu'il apporte de plus ?
C'est une collection, en fait, où il y a déjà Botanicum et Animalum. Sur le même format, sur le même style de dessin, c'est-à-dire très effectivement planche scientifique, planche...
Oui, ça fait penser et, à ça, vraiment.
Eau du bon.
Et eau du bon, voilà, ce fameux peintre d'oiseaux américain.
Voilà pourquoi Valérie ne parlait plus depuis 10 minutes.
Tu fais référence à Saint-Antonio avec Eau du bon Wilson de la pétardière Fredouillou ?
Non, j'ai arrêté ça, ça fait quelques temps.
Là, tout ce bouquin, c'est quand même
Moi, je regardais que les couvertures de
oui,
ça.
Oui, c'est très beau, et du coup, c'est vrai que...
Quand j'étais ado.
Quand t'es gamin ou quand t'es ado, c'est vrai, avoir un ouvrage comme ça, tu t'y replonges, tu reviens dessus. Tu peux y passer des heures à observer, à regarder, à lire ou pas, à imaginer des choses. Et c'est des ouvrages qui sont faits pour ça, un peu comme dans des encyclopédies.
Oui,
en fait,
voilà,
c'est
le livre
des
du passionné.
Des beaux cadeaux qui vont te rester toute ta vie, je pense.
Ah oui, ça oui. Voilà. Ouais. C'est vraiment un beau livre, un très beau livre. Et voilà, ultra complet.
Voilà, sur les dinosaures, il y a plein de choses très, très chouettes aussi.
C'est un grand format quand même.
Voilà.
Oui, c'est un très grand format.
Le T-Rex, c'est un miracle qu'il ait survécu compte tenu de ses petites mains où il ne pouvait même pas mettre à manger dans sa bouche tellement ses bras étaient petits.
Bah, il a une...
C'est quand même exceptionnel.
Pas de bras, pas de chocolat.
Bah, justement, t'imagines pour manger avec ses petits bras ça m'a toujours impressionné.
Si vous voyez Valérie imiter le T-Rex avec ses petits bras.
Il ne mangeait pas avec les mains, en fait, il gobe tout.
Oui, mais bon, par moment, il fallait quand même qu'il...
Non, il mangeait avec des baguettes en fait. Il pinçait les.
Ben oui.
Tu vois, il mangeait des sushis quoi.
Peut-être qu'il mangeait pas.
Moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous a fait peur quand vous étiez enfant les dinosaures ? Par exemple, quand vous voyez la tête du T-Rex là, en grand format.
Non, à part quand j'ai vu Jurassic Park, peut-être.
Oui,
un
mais
peu
t'étais
tôt,
plus grand, t'étais plus bébé, t'étais plus petit.
Ah, j'étais pas bébé, non.
Quand elle a vu 8 ans, elle a eu un peu peur Jurassic Park.
Bah, j'étais
non, mais
assez
tout le monde
jeune,
a flippé.
Voilà, mais
je l'ai pas vu. Ça fait flipper tout le monde.
Ça dépend à quel âge tu le vois.
Moi, j'ai pas vu Jurassic Park.
Mais tu veux toujours le regarder.
Non, moi, j'ai jamais eu peur des dinosaures.
Moi, j'ai jamais vu.
J'ai toujours été attiré par les dinosaures.
Oui, il y a une petite, une espèce de curiosité.
Mais c'est un sujet, tout comme l'égyptologie, ou des choses comme ça, qui intéresse vraiment beaucoup d'enfants. Quoi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a ces thèmes-là qui...
Oui, mystérieux aussi.
Parce que ça existait, c'était des êtres complètement...
Oui, c'est
on dit,
gros,
tu dis à tes enfants
puissant,
tous les soirs, le monstre n'existe pas, non, il n'y aura pas de loup-garou qui viendra te manger, sauf si tu désobéis à maman. Et on te dit les animaux terribles n'existent pas, mais les dinosaures ont existé. Déjà, c'est une première chose. Et après, on te dit, tu inquiètes pas, tu es en sécurité, il t'arrivera rien dans ton lit. Mais il y a quand même une putain de comète qui s'est écrasée sur Terre.
Une astéroïde.
Valérie, voilà, c'est tout ce genre de choses.
S'il te plaît. En même temps, dans toute l'iconographie qu'on retrouve, on s'inspire beaucoup de ces monstres hein, anciens, parce qu'on y remet, on met sur nos monstres actuels des écailles, des griffes, des dents, ce qu'on retrouve chez les dinosaures. Hein.
Moi, la mythologie, les monstres de mythologie, effrayés que les dinosaures. Les monstres de mythologie, parce qu'ils étaient des croisements entre des animaux qu'on connaît. Ça, je trouvais ça beaucoup plus effrayant. Un centaure ou un minotaure m'effrayait beaucoup plus que ça.
C'est autre chose. Ouais.
Voilà. Mmh. Un dinosaure, tu savais que c'était fini.
Allez, on va parler d'animaux effrayants, de la vache.
Oui, bah, on n'imagine pas. Voilà.
Alors, la vache, alors, je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, bien que ce soit un excellent livre, surtout ici dans notre département. C'est la vache, la vache que l'on croit bien connaître. Mais savez-vous combien il existe de races de vaches dans le monde ?
192.
Quelle est la différence entre une génisse, un veau et un bœuf ? Comment la vache transforme de l'herbe en lait ? Quels sont les animaux qui se nourrissent de la bouse ? Pourquoi la vache est considérée comme sacrée en Inde ? Quel est le bon morceau de la vache qu'on peut manger ? Voilà, du pré verdoyant à la pampa argentine, de la salle de traite aux étals du boucher, des anciennes civilisations jusqu'à nos jours. Et bien, avec ce livre, vous partez à la rencontre de cet animal. Et vous pouvez voir son incroyable diversité. Voilà, c'est tout sur la vache. La vache, l'agriculteur, le pré, chez l'artisan boucher. Comment on fait ce type de fromage? Comment on fait l'autre type de fromage? Quels sont les différents types de fromage qui existent? À quoi elles servaient avant? Quel est l'ancêtre de la vache? Voilà, le c'est roc. Vraiment tout sur la vache.
Tout,
c'est le roc.
Vraiment tout, c'est tout. Super.
Quelle est la vache la plus petite? Quelle est la vache la plus grande? Comment on appelle... ces différentes couleurs, ces différentes robes, voilà.
J'ai envie d'un steak
d'Angus. Dis, Ludo, comment fait les bébés ?
Voilà. Je pense que peut-être qu'ils disent comment ils font les bébés.
Enfin, ça a l'air chouette.
C'est très très intéressant. C'est très très intéressant.
Il y a le minotaure. Ouais, il me fait peur.
Voilà, Valérie, ferme les yeux.
Et donc, il faut dire que l'illustration, ça fait un peu vintage aussi. Ça fait un peu. Ancien bon point, je sais pas.
Ouais. Après, je sais pas s'ils ont voulu la faire vintage.
Ah, je pense.
Ça fait un peu vieillir. Je pense que c'est bien en vogue en ce moment.
Ouais.
Et après, moi, il y a des volets aussi à ouvrir.
Il y a des volets à ouvrir.
C'est un livre assez.
Ouais. Ça fait un peu livre objet sans trop.
Oui. Après, c'est pas pour les petits, hein, parce que.
Mais pour quelqu'un,
il y a plein de niveaux de lecture là-dessus. Hein. On peut travailler sur. CE1, c'est aussi un imagier, on peut travailler avec les petits sur les images. C'est quoi ça ? Une vache. Et c'est quoi un steak ?
Oui, bien sûr.
Non, mais fromage, enfin, tu vois, il y a aussi. Il y a des mots simples quand même dedans et ça peut être exploité par.
Mais ça peut être un joli cadeau pour des enfants qui s'intéressent effectivement, qui aiment bien les vaches ou qui.
Oui, mais surtout dans notre département où on voit beaucoup de vaches, c'est bien de s'intéresser à cet animal.
Et... D'ailleurs, en parlant de vaches, on a des nouvelles de la race brune et du fromage qui.
Alors, pas du tout, non.
Le fromage de Nadège Ressouche qui est absolument excellentissime.
Ah ouais, qui est extraordinaire. Ouais. Surtout la...
Nadège Ressouche qu'on a eu dans notre émission au Campus Bien-être mercredi dernier, que vous pourrez retrouver en podcast sur le site
aujourd'hui,
de Charles.fm.
Et du coup, elle t'a pas parlé de son fromage ?
Si, bien sûr.
Faudra qu'on aille faire un goûter chez elle les jeudis où elle fait les goûters ouverts à tout le monde.
Oui.
Moi, j'avais fait une émission avec Los Actuali où elle y était et j'ai eu faim pendant une heure. Voilà.
Super.
Ah oui, non, mais elle est
ça
fabuleuse.
Ça se bouffe pas, ça se mange.
Oui, mais
Il parle de l'Aubrac ou pas ?
Il parle de toutes les vaches. Après, il présente toutes les vaches. Il présente toutes les vaches. Après, c'est sur la vache en général. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'une exploitation ? Où elle vit l'hiver, où elle vit l'été, comment elle vêle, qu'est-ce qu'un taureau, qu'est-ce qu'une génisse, qu'est-ce qu'une salle de traite, qu'est-ce qu'on mange dans la vache. Enfin, c'est vraiment tout de A à Z. C'est, ben, voilà, on parlait de l'encyclopédie du dinosaure. Alors, c'est moins fun pour offrir à son enfant. Tiens, je t'ai offert l'encyclopédie de la vache.
On ne peut pas le présenter comme ça.
Mais il ne faut peut-être pas le présenter comme ça.
C'est
ça.
Moi, j'ai
beaucoup
aimé à la librairie.
Ouais, une belle blouse.
Une belle blouse.
Les fils agriculteurs, etc.
Non, ça peut être super, ça, justement. Il ne faut pas se.
C'est très didactique, hein, quand même, comme tu vois.
Mais les images sont belles, ça fait pas vieux truc des champs.
Non, c'est
quoi.
Très beau, ouais.
Ça fait belle des champs, justement.
C'est chez Gallimard. Très chouette. Gallimard, c'est intéressant.
Mais d'une façon générale, moi j'étais sur des éditeurs là, récemment, la semaine dernière. à Rodez. Et Rodez. Et du coup, il y avait Thomas Cotto, il y avait Régis Lejean, il y avait Olivier Douzou, des auteurs comme ça, littérature jeunesse, des gens vraiment intéressants. Jeanne HB aussi, qui a travaillé, que tu connais un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait sur l'écriture pour le très jeune public et le jeune public en général, la littérature jeunesse, hein, qui est remarquable, tant sur le plan graphique que voilà, la recherche esthétique, mais que sur les contenus, les questions qui sont posées, mais la façon de les traiter.
Après, il y a un super niveau. Hein. C'est comme toujours pareil, il y a des super niveaux.
Par rapport à il y a 15 ans, ça, c'est le jour et la nuit. Quoi. Mm. On trouve des collections extraordinaires.
D'ailleurs, tu parles des auteurs, on n'a pas parlé des prix littéraires, Héloïse, dans cette émission, alors qu'ils viennent de sortir.
Ouais.
Tu veux en dire un mot?
Pourquoi pas le concours Actes Sud.
Chez Actes Sud encore.
La troisième fois. Incroyable. En 5 ans, c'est assez incroyable, effectivement. Ça, c'est du jamais vu, en fait. Et du coup, c'est un livre assez social. Cette année, les prix ont récompensé des choses vraiment originales, vraiment sociales, vraiment à part. Je ne sais pas s'ils se sont concertés ou pas. Mais ils ont fait des choses, ils ont récompensé des petits éditeurs. Bon, Actes Sud, c'est autre chose, mais par exemple, le Renaudot, c'est le Tripode, c'est une toute petite maison d'édition. Ça va leur faire vraiment du bien, même si là, la réimpression va faire du mal au niveau du portefeuille, mais ça ira. Et après, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont récompensées. C'est du jamais vu, en fait, cette année, c'est-à-dire de récompenser des premiers auteurs, des éditeurs à part, des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde, c'est-à-dire que les prix, c'est quand même porteur d'achat. Et bah, du coup, les gens seront obligés de lire des choses bien, quoi.
Et ça va faire un peu de bien au prix eux-mêmes, peut-être aussi, de changer.
Oui, tout à fait.
Et il y a un prix qui doit te faire plaisir aussi.
C'est
le prix Apollinaire.
Coulon, ouais, Cécile Coulon, mm-hmm. qui a eu le prix Apollinaire pour son recueil de poésie Les Ronces. Au Castor Astral, qui est aussi une toute petite maison d'édition.
Très beau recueil de poésie.
Et le fait est que c'est son premier recueil de poésie.
C'est la première fois depuis 77 ans, je crois.
Depuis 77 ans que c'est un premier ouvrage de poésie d'un auteur aussi jeune qui est récompensé.
Elle a quel âge?
Donc, elle a mon âge.
Elle est super jeune, alors.
Elle a 28 ans.
22 ans.
28 ans.
28 ans.
Donc voilà, c'est bien, ça fait du bien, en fait, ça fait du bien à tous les libraires, ça fait du bien à tout le monde, je pense.
Merci Héloïse, je te laisse la parole, tu as un autre livre à présenter.
Bien sûr, ben voilà un livre qui fait du bien et qui est quand même pratique, voilà. Qui s'appelle « Observer la vie sauvage de nos jardins » de Christian Bouchardy. Le sous-titre « Identifier, protéger, de la campagne à la ville ». Et c'est une maison d'édition qui s'appelle De Boré et qu'on connaît parce qu'ils éditent pas mal de choses régionalistes, des romans dont je ne suis pas vraiment fan, etc. Et là, ce livre-là, il m'a vraiment charmée. C'est quelque chose de très pratique. C'est tout simplement pour observer la vie sauvage, mais de sa fenêtre, de son jardin, sans bouger. Enfin, on peut bouger si on veut, effectivement. Mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Et c'est un livre à la fois pour adultes et pour enfants. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, il y a quelques sous-catégories. Il y a les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles. Et ensuite, quelques pages thématiques, donc comment donner à manger, comment permettre aux oiseaux de nicher, fabriquer des cabanes, la ville, les images, et comment protéger en fait, les animaux qui sont tout autour de nous. Ce que j'ai trouvé super, c'est-à-dire que à toutes les pages, c'est des animaux qu'on peut trouver en Lozère, qu'on peut vraiment observer en Lozère. Et j'ai trouvé ça super. Oui. Et donc, il y a un peu de texte, il y a beaucoup de photos, c'est-à-dire que l'oiseau, l'amphibien est en gros, donc on peut facilement l'identifier.
Ouais,
c'est pas du dessin, c'est des photos. Donc du coup, voilà, c'est plus facile. Donc on découvre combien de sortes de mésanges il existe, on découvre des choses sur la salamande, le rouge-gorge, enfin des choses.
Le
moineau domestique, enfin, il y a plein de... Quasiment tous ces oiseaux, moi je les ai déjà croisés sans savoir effectivement ces petites anecdotes là où ils font leur nid, qu'est-ce qu'il leur faut à manger, voilà. Et c'est très pratique et pour les enfants, pour essayer de les faire sortir, de les motiver un peu, il suffit de prendre ce livre et c'est tout à fait concret. Dès qu'on sort de chez soi, on peut croiser un animal de ce livre. Et c'est ça que je trouve assez fabuleux.
Même en étant à la ville, effectivement.
Et c'est absolument top. Ouais.
Voilà, c'est des photos, hein.
Oui, c'est des photos.
C'est pas des dessins, c'est des très belles photos. Mm-hmm.
Donc voilà. C'est,
oui, ça a l'air assez didactique.
C'est tout simple, ouais. Mais je pense que ça peut être un bon outil pour quelqu'un qui s'y connaît pas ou pour quelqu'un pour accompagner son enfant à essayer d'explorer des choses toutes simples, mais qui sont après tout très belles, quoi. Aussi, une mésange bleue, une nonnette, une. Ben voilà, un rouge-gorge, un moineau, ben en fait, même si on les croise tous les jours, ça peut être magnifique à observer, je pense.
Alors c'est classé, il y a les oiseaux, il y a les mammifères, il y a les reptiles.
Et puis le côté sympa, c'est ouais, comment les nourrir, comment les protéger, voilà, ça ajoute quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins dans les livres.
Ils donnent
de...
des conseils, par exemple, toutes ces boules de graisse qu'on achète pour les oiseaux, c'est vrai que ça leur est bien utile, parce que finalement, quand le sol est gelé, ils ne peuvent pas prendre... ni les baies, ni les insectes, etc. Donc c'est bien d'acheter ces boules de graisse, mais ils conseillent en fait de l'enlever de leur emballage plastique, parce qu'en fait les oiseaux souvent se prennent les pattes dedans. Voilà, c'est quelque chose, c'est une astuce très simple. C'est très simple à réaliser, mais ça peut aider beaucoup d'oiseaux quoi au quotidien, je pense. Par exemple.
Oh, Valérie, elle a le sourire coquin, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme bêtise?
C'est Nico qui me fait des trucs bizarres à côté de moi.
Ah non, mais ça je veux pas savoir.
Non, j'avais le sourire coquin parce que je savais qu'avec mon dernier livre, j'allais clôturer.
Allez,
parce
vas-y,
que,
parce clôture, que depuis tout à l'heure, il me fait émission.
Des temps morts, il me dit faut qu'on arrête.
Non, non, je te faisais des signes pour savoir si tu avais encore un livre pour te donner ou non la parole. Parce non, que Popo, je sais qu'elle en a que deux.
J'en ai encore deux, mais si j'ai le temps d'en présenter qu'un, je présenterai
Pourquoi
mon coup
en
de cœur.
Encore deux, toi.
Parce que j'en avais trois et tu m'as donné la parole.
T'en as présenté qu'un. D'accord, ok.
Voilà.
Allez, vas-y, présente-en un autre.
Mais j'aurai le temps de présenter les deux ou pas?
Ça dépend combien de temps tu mets à présenter celui-là.
Non, alors ce que je vais faire, en fait, je vais présenter mon coup de cœur de la vie. Mon
de
coup
la
de cœur de la vie d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui,
parce que demain, je peux avoir un autre coup de cœur.
Je crois que j'ai déjà entendu ton coup de cœur il y a deux ou trois émissions, hein, déjà.
Oui,
peut-être même à la dernière.
Oui,
même
mais
à
la c'est dernière pas émission. Ma faute si ma libraire est fabuleuse. Attends, excuse-moi, à chaque fois, tu dis, oh, je veux un livre.
Ça, c'est un beau slogan, ça, ma libraire est fabuleuse. Ouais. Non, non, le dire à la CAPEB.
Mais avant, si je puis me permettre, alors je sors un peu du cadre parce que des fois on parlait qu'il n'y avait pas de livres jeunesse qui sortaient. On est quand même en train de parler des oiseaux. Je voulais juste faire une parenthèse pour dire que l'ALEP, l'Association de protection de la nature de Lozère, qui est à Bal-Siège, est en train d'éditer un livre qui s'appelle Instant nature, instant précieux, quelques oiseaux de Lozère. Et d'ailleurs, c'est un livre qui. Ça y est, il est en train là de. Je pense que les imprimeries sont en train de le sortir. Il y a eu un financement participatif pour l'éditer. Et ça y est, il est dans les presses, il va bientôt sortir et je pense qu'il va être super. Voilà. Mais ça, c'était
Merci
ma parenthèse.
Valérie.
Après, l'ALEP, c'est toujours des documents précieux sur la Lozère et sur l'observation de la nature et qui peuvent s'appliquer effectivement avec un peu de pédagogie aux enfants.
Et là, celui-là, voilà, il va être beau parce qu'il a dû surmonter des difficultés pour être édité. Donc, il va être bien. Mais arrivera-t-il à la cheville de mon coup de cœur du jour? Je crie pas parce que je suis pleine d'enthousiasme, non, parce que Nico y a pris ma place et j'ai dû mettre mon livre loin derrière moi. Mais
okay.
Le Graal, avec un accent circonflexe sur le A, comme dans le titre de mon livre qui s'appelle Âme animale de Pablo Salvaje. Un livre précieux, un livre beau, un livre qui vous fera mettre la larme à l'œil, mais aussi le sourire aux lèvres, un livre magnifique, un livre vraiment... Oui, j'exagère pas, Nico. Ne me regarde pas en faisant genre « Oh, tu exagères ». Non, non, je ne baratine pas, vraiment. C'est
micro.
Pardon, excuse-moi, j'étais tellement pleine d'émotions que j'en ai oublié mon micro. C'était le troisième livre que j'ai lu de ma trilogie de livres à lire. Et après les deux premiers qui étaient « Ouais », j'ai attaqué le troisième, mais là, ça a été « Waouh ». Ça a été « Waouh » parce que je l'ai commencé par la fin. Et en fait, donc le livre s'appelle Âme animale, mais en fait,
pourquoi tu commences par la fin?
Parce que c'est un livre pour enfants, ça faisait un peu documentaire, j'avais l'impression.
Ouais.
J'ai commencé par la fin. Et donc là, et je vais spoiler. Parce
non.
Que, si. Ou alors coupe le micro. Si
bon, vas-y, spoil.
Non, en fait, c'est magnifique. En fait, l'auteur donc, met son empreinte et il met ce livre est dédié à toutes les mères éléphantes qui luttent vaillamment, nous donnent du courage, élèvent leurs trompes pour manifester leur joie de nous voir courir au papa pingouin. Aux louves, aux gorilles, et il explique chaque fois pourquoi. Mais à ceux qui sont partis et à toi qui fais battre mon cœur de toute mon âme. Et c'est très très beau. Et Pablo Salvaje, il ne travaille pas avec ses mains, il travaille avec son cœur.
Avec sa trompe.
Avec sa trompe peut-être aussi. Ludo, tu viens de briser tout le romantisme que j'avais mis.
C'est moi, c'est toi qui m'as parlé de trompe.
Oui, mais c'est parce que je parle des mamans éléphantes. En fait, c'est un livre magnifique. Pardon. Moi, je vais me coller le micro contre la bouche. Voilà, c'est fait. Donc, et c'est un livre, en fait, où on va avoir une page avec un magnifique dessin et une explication qui est de la prose, mais qui est présentée comme si c'était une poésie. Et la poésie, des fois, c'est un peu agaçant à lire. Mais là, ce n'est pas du tout agaçant à lire parce que c'est une belle prose. C'est des phrases courtes, donc rédigées, comme je le disais, sur une écriture qui ressemble à de la poésie, mais qui n'en est pas, finalement. Mais qui, pourtant, quand tu le lis, ben, va résonner, va claquer dans ta tête, va claquer dans ton âme, comme le titre du livre. Et on va avoir donc plusieurs thèmes sur les animaux, leur âme, leur amour. L'amour est un mot si grand que chacun peut l'interpréter et le vivre à sa façon. Et il parle de l'amour animal, donc l'amour des flamants roses, qui est dégueulasse en soi, l'amour des gorilles et des toucans. Oui, savais-tu comment le flamant rose recouvrait son corps de rose avec son excrément ? Voilà, donc plein de choses comme ça qui sont très belles, des dessins magnifiques.
Alors, s'il y a quelqu'un qui comprend la présentation de ton livre, je pense qu'il va acheter l'encyclopédie des dinosaures.
C'est vrai, c'est confus ?
Non.
C'est un peu confus quand même.
Non, c'était poétique, c'était
beau. Merci Nico. Oui,
c'est poétique, on ressent ça.
Ça peut être poétique, beau et confus.
Non, oui,
mais c'est vendeur quand même.
En fait, non, le but c'est pas de le vendre, c'est
de
l'aimer.
Est-ce que tu peux lire un extrait, s'il te plaît ?
Voilà,
En fait, il y a des thèmes, donc il y a amour, âme, rythme, et chaque fois, donc on a une présentation de ces thèmes sur forme de poésie, suivie de quelques dessins.
Il y a de magnifiques illustrations.
Ah, mais les dessins sont absolument merveilleux.
On dirait des gravures ou
Oui, ça me fait penser à Gilgamesh. Voilà, et il y a métamorphose, et c'est ainsi, je suis en plein dans les métamorphoses. La métamorphose que connaît le papillon modifie radicalement sa morphologie. De chenille dans les branches, il devient papillon dans les airs. Voilà,
Ah ben, on comprend mieux, là.
Oui, voilà. Oui, parce que t'es quelqu'un de très cartésien, toi, t'as
besoin
d'explications. Et ce livre, il est fait pour les cartésiens, comme toi, puisque dans cette prose poétique, il va y avoir des explications cartésiennes et scientifiques.
Excellent.
Mais il est fait pour les rêveurs, comme Nico, ou comme les pédagogues, comme Pauline, qui ont besoin de donner des explications, et comme les libraires, comme Héloïse, qui ont toujours à cœur de nous proposer les plus beaux ouvrages.
Ah bah là, tu l'as bien vendu. Là.
Ah, c'est très bon. Là. La fin, j'adore.
Non, voilà. Non, et c'est vraiment, c'est un livre qui m'a mis les larmes aux yeux, mais j'ai pas pleuré sur le livre pour pas l'abîmer. Parce qu'il est précieux.
Mais
parce
à côté.
Parce que comme son thème numéro 9, c'est un trésor. Ce livre est un trésor parce qu'il explique qu'il existe des petites merveilles et parfois bien cachées d'une immense fragilité. Ces prouesses de la nature tiennent dans la paume de la main. Mais c'est beau, mais vous imaginez pas que.
Non, non, mais c'est très beau, Valérie.
Ça a l'air vraiment. Chez les homos, et visuellement, ça a l'air très beau déjà.
Des merveilles bien cachées.
Nico, s'il te plaît, Ludo vient déjà de faire une allusion dégoûtante, tu vas pas t'y mettre aussi.
Ah, c'était pas dégoûtant du tout.
Non, tu l'as mal compris. C'est chez Nathan.
Tu l'as mal compris, c'est vrai.
Et à la fin, il nous fait une petite dédicace à nos animaux disparus, que sont le dodo, mais aussi.
Oh non, on parle plus de dodo.
Le dodo fait autant de peine à tout le monde.
Mais parce que c'est peut-être le premier exemple dont tout le monde s'est rendu compte vraiment. Vite, en fait.
Ouais, parce qu'il est un peu nous.
Il a disparu en très peu de temps, en 10 ans, je crois.
Oui, mais on est un peu le dodo.
Ça a choqué un peu tout le monde.
Je pense qu'on est un peu le dodo.
Il y en a plein d'exemples comme ça.
Et oui, en fait, oui, c'est ça, c'est que c'est pas le seul. Et loin de là.
C'est pas que maintenant, on a commencé il y a 200 ans à faire ça.
Nathan, on n'en parle pas beaucoup de Nathan.
C'est vrai.
C'est vrai parce que.
Pourquoi ?
C'est très scolaire.
C'est un éditeur scolaire à la base.
Ah, d'accord.
Après, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de choses, mais il y a. Dans les premières lectures, dans les premiers romans, il y a des choses que j'adore. Dans les albums, peut-être moins, de choses de qualité. Après, voilà, il y a une pépite qui va sortir comme ça et ça rattrape tout
ben,
à
ça
fait.
Ça ressemblerait presque à un Rue du Monde ou à...
Oui, mais tout à fait, oui.
Mais c'est vraiment magnifique. Le dessin est magnifique, le texte est magnifique et il peut plaire à tout le monde. Il peut plaire au poétique comme aux
cartésiens.
Après,
ces maisons d'édition aussi, elles font souvent appel à des... Sur les éditions, comme ça, sur les choix, elles font appel aussi à des graphistes, à des personnes ressources qui restent 5, 6, 10 ans et qui développent une collection et qui parfois restent, parfois s'en vont. Et quand tu as des retours comme ça ou des changements de direction, c'est intéressant parce que les gens ils viennent aussi avec leurs univers. Quoi, et
ben justement,
c'est bien que dans les maisons d'édition que ça évolue.
Justement, Nico, Valérie qui a travaillé sur les auteurs, parle-nous de Pablo
Salvaje.
Alors, en fait,
c'est un Sévillan. C'est un Sévillan qui en fait a vécu... Donc, il faut savoir que sa famille était quand même dans l'encre et le papier. Hein, donc, c'était une imprimerie, ses parents. C'était vraiment un grand curieux. C'est-à-dire qu'il était toujours dans la nature. Il avait besoin de regarder les troncs, les feuilles, il fallait qu'il ramasse des papiers. Et il a commencé, en fait, un peu à dessiner là-dessus.
Il aurait pu travailler pour Kleenex.
Aussi. C'est moche, ce que tu dis. Un jour, il a rencontré Mia Cassani de chez Mosquito Books à Barcelone, une très très grande maison, et qui, quand elle a vu en fait un cœur qui avait été taillé à la main par Pablo Salvaje, a eu un coup de cœur et elle a eu besoin de voir plus sur son travail.
Et est-ce après, qu'on parle d'une histoire d'amour ou pas?
Du tout. Parce qu'après, ils ont fait bosser Anna Pratt, donc une graphiste talentueuse, qui a fait dans ce livre plus de 300 estampes pour faire vivre en fait tous les mots que lui a mis et pour vraiment mettre en image tout ça. Donc ils sont en fait, on sent dans l'ouvrage, on sent la compassion, on sent la passion, on sent plein de choses. Et c'est juste un ouvrage magnifique et fabuleux.
Voilà. Merci Valérie, on va rester sur cette belle note. On ne présente pas ton dernier livre, c'est bon? Après celui-là, c'est un peu dommage.
Non, c'est un livre sous les oiseaux.
On a dépassé 10 minutes.
Est-ce qu'on prévient le CSA qu'on a dépassé ou pas?
On va couper ça
au montage. Ouais.
On coupe rien.
On a dit qu'on
coupe rien. Dans 2 semaines, nouvelle émission, on ne sait pas encore ou on sait?
Oui, non, j'ai envie de parler de plein de thèmes que chacun aime. Comme on arrive bientôt aux dernières émissions, peut-être. J'ai envie de parler de sport, j'ai envie de parler de musique, j'ai envie de parler de mode, j'ai envie de parler de ce que vous voulez. J'ai envie qu'on se fasse plaisir pour les dernières émissions. Voilà.
Allez, ça sera la
Faisons
surprise.
Faisons-nous plaisir. Vivant.
Allez, ciao les amis.
Et salut,
ciao. Bye. Au revoir.
Tu limites super bien.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.